Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, aujourd'hui sur Radio SBS, on va parler d'art et on va parler d'une exposition qui arrive à Sydney avec Aurélie Verdier. Vous êtes conservatrice à Paris au musée donc d'art moderne, c'est Centre Pompidou.
Oui, c'est exact, absolument. Depuis 2018 et je suis très heureuse d'être parmi vous et de parler de cette très très belle exposition Matisse Life and Spirit qu'organise le Art Gallery of New South Wales. Je la verrai de loin, ce qui est un petit peu triste, mais en même temps j'étais évidemment très impliquée dans ce travail avec Justin Payton et Jackie Dunn. C'était une expérience formidable, absolument, à tout point de vue.
Ouais, alors parlons un petit peu de Matisse et de son travail et de comment cette exposition, comment on emmène Matisse à Sydney. Donc si on parle de l'homme en lui-même au départ, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'homme, son œuvre, qui était Matisse?
Oh, en quelques mots, c'est un peu compliqué parce que c'est évidemment l'un des artistes absolument majeurs du XXe siècle et peut-être encore au XXIe siècle. Il a des choses à nous dire, mais Matisse est un homme du nord de la France. C'est un homme du nord. Il est né au Cateau-Cambrésis en 1869, le dernier jour de 69, et il meurt à Nice en 1954. Donc voilà, il commence sa vie au nord, il la finit au sud, et une grande partie de sa vie va se passer dans la lumière de la Méditerranée, hein, dans le sud de la France, à Nice notamment. Voilà, et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que Matisse est à la fois un artiste de l'atelier, de la maison, de l'intériorité, et en même temps un artiste qui va être voyageur, hein. Il va partir à Tahiti en 1930 et ça, ce sera très important, hein, l'envie d'une autre lumière, d'un autre hémisphère. Donc, c'est comme pour tous les grands artistes, un artiste double, un artiste des polarités, voilà, intérieur, extérieur, intime et en même temps sachant parfaitement ce qu'il faisait pour que sa carrière aussi soit à l'image de celle de son grand rival Picasso. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est évidemment l'un des plus grands créateurs de formes au XXe siècle, capable encore aujourd'hui, je crois, d'inspirer les artistes.
Comment on emmène des œuvres qui sont précieuses, qui ont une valeur inestimable pour le patrimoine français, et comment on décide de pouvoir emmener ça à l'autre bout du monde? Ça a l'air quand même d'une certaine complexité. C'est pas si simple que ça.
Mais vous avez parfaitement raison. C'est tellement complexe qu'en fait c'est une aventure, si je peux dire, qui entraîne des dizaines et des dizaines de personnes, hein, aux qualités diverses. Moi je m'occupe vraiment du versant, on va dire, scientifique, hein, de l'expo, c'est-à-dire de son contenu, de l'histoire de l'art. Hein. C'est nous l'avons conçu avec Justin Payton et Jackie Dunn. C'est vraiment ce côté-là. Après effectivement la coulisse d'une telle entreprise. D'abord, c'est des années de travail. Ça fait très longtemps que le Centre Pompidou avait le souhait que cette collection Matisse, qui est exceptionnelle, hein, qui peut rivaliser finalement avec celle du MoMA ou celle des musées russes. Voilà, le Centre Pompidou avait le souhait qu'elle soit connue, qu'elle soit montrée, qu'elle soit partagée aussi. Et en Australie, ça faisait extrêmement longtemps que Matisse n'avait pas été montrée. C'est même une première à Sydney. Voilà. Et peut-être pour vous répondre, c'est effectivement une entreprise, si je puis dire, qui prend beaucoup d'années. Ouais, absolument. Ajoutez à ça qu'une pandémie mondiale aura compliqué énormément les choses, bien sûr. Voilà, et c'est un petit miracle qu'elle ait lieu aujourd'hui à Sydney, c'est vrai.
Ouais, tout à fait. C'est d'autant plus important qu'il faut vraiment aller la voir parce que c'est, comme vous le dites, ça fait première fois à Sydney, donc pour le public de la Nouvelle-Galles du Sud, et on se rend que compte à quel point c'est un artiste majeur pour la France. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein du Centre Pompidou, c'est un artiste qui est peut-être un des artistes les plus vus, les plus préférés par rapport au public?
Oh oui, j'ai presque envie de dire que d'une certaine manière, c'est peut-être l'artiste que le public recherche en tout premier lieu, parce que il y a des œuvres absolument iconiques dans cette collection, le public le sait, et il y a quelque chose chez Matisse de manière presque éternelle, j'oserais dire, qui est ce réconfort, cette sérénité, cette plénitude que recherchait l'artiste. Hein. C'est pas seulement la manière dont le public le reçoit, c'est que c'était vraiment un projet artistique hein, chez Matisse de produire en fait sur le spectateur, sur celui qui regarde, un art du réconfort, presque j'ai envie de dire un art thérapeutique. Donc dans des temps extrêmement troublés comme le sont les nôtres, je crois que l'art de Matisse a évidemment encore beaucoup, beaucoup à nous dire. Et ce qui est étonnant chez Matisse, c'est que c'est à la fois un art extraordinairement sensoriel. Hein, on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances pour l'apprécier. On peut l'aimer très vite, simplement se laisser porter par la vision que son art procure. Et en même temps, c'est évidemment un art aussi de l'intellect. Hein, c'est ces polarités dont je parlais au début. Hein, il est capable d'être cet artiste dont on reprochait un goût trop fort de l'analyse hein, quand il commençait à ses débuts, hein, au début de sa carrière. Et dans le même temps, il est cet artiste voilà, extraordinairement sensuel, sensoriel. Et le public le sait. Donc oui, je le pense de manière très forte. C'est certainement l'un des artistes, sinon l'artiste préféré du public, oui, qui vient au Centre Pompidou, certainement.
Si on parle de sa carrière, comme tous les artistes, hein, il y a eu plusieurs périodes, plusieurs courants. C'est pas que de la peinture, il y a la sculpture, il y a d'autres modes d'expression. Comment vous analysez, vous, son cheminement artistique sur toute sa vie ?
Je dirais sous le signe d'une très grande continuité que les ruptures en fait importantes dans sa vie ne contredisent pas. Il n'y a pas de contradiction aux deux. C'est-à-dire que le Matisse peut être un peu plus besogneux hein, puisqu'il a une formation très longue, très humble hein, en quelque sorte. Il n'est pas cet artiste né avec des pinceaux dans les mains comme Picasso hein, si je puis dire. Donc c'est un travailleur Matisse. Hein, il tient ça d'ailleurs de son milieu, de là où il est né. Hein. On travaille dans le Nord et c'est quelque chose qu'il gardera toute sa vie. Donc même quand il est ce maître célébré dès 1905, 1908, hein, après le scandale du fauvisme, Matisse est quelqu'un qui va remettre son ouvrage en permanence. Il va rejouer les choses, se mettre en danger. Hein. C'est pas un art confortable malgré les apparences. Hein, encore une fois. Donc voilà, je dirais que c'est cette alternance en fait de repos, de temps de repos en quelque sorte dans son art, quand précisément il sait qu'il maîtrise quelque chose, et puis ensuite de rejouer tout. Alors ça peut être un voyage, comme de partir en effet à Tahiti, ça peut être d'aller vers un autre médium, une autre technique. Hein, vous l'avez bien dit, il est sculpteur, il est un dessinateur absolument considérable. Hein, on sait bien l'importance du dessin dans sa pratique. Les gouaches découpées vont être encore une dernière technique. À la fin de sa vie finalement où l'artiste va réussir cet exploit, je dirais, à réunir la question du dessin et de la couleur, puisque les ciseaux dessinent dans la couleur hein. Elle attaque la couleur directement à même la feuille. Donc ça c'est Matisse résumé en quelques mots, mais c'est compliqué évidemment de le résumer comme ça si rapidement, mais je crois qu'il y a de ça dans ce que je tente de vous expliquer.
Vous nous parlez que Matisse a eu cette relation avec Tahiti, donc la Polynésie française. Il y a un autre peintre français, c'est Gauguin, qui a été beaucoup marqué par la Polynésie française. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ? Comment on peut juger ou jauger leur approche par rapport à cette Polynésie française à chacun ?
Je pense que les rapports sont tout de même différents. D'abord, Matisse va regarder Gauguin durant ses années de formation et de jeune peintre au tournant du siècle, autour de 1900. Matisse a une bonne connaissance de Gauguin et à certains moments, même je dirais de son œuvre, il y a un regard délibéré vers la peinture de Gauguin. Par ailleurs, il connaît aussi Daniel de Monfred, hein, qui est un proche de Gauguin, avec qui il va même tirer hein, les gravures de Noah de Gauguin. Donc il y a une connaissance assez intime de Gauguin. Après, dans un second temps, quand Matisse entreprend ce voyage en 1930, il sait qu'il va sur les traces de Gauguin là aussi, mais je pense que c'est fait dans un état d'esprit tout différent, parce que Gauguin s'installe là-bas quand Matisse en fait envisage un voyage de quelques semaines. Alors c'est quand même très très différents. Je pense que la volonté n'est pas la même. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plutôt de Gauguin dont on peut éventuellement stigmatiser des comportements éventuellement d'emprise. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça c'est tout à fait différent pour Matisse qui est piloté, si je peux dire, par des amis qui résident là-bas, qui résident à Tahiti. Il a vraiment une autre conception de ce voyage qui n'est pas destiné à être très long. Par ailleurs, il faut dire une chose, c'est que là-bas, il se retrouve finalement à très très peu produire quelques croquis, quelques photographies amateurs. Il n'arrive pas particulièrement à. Il savoure ce qu'il voit. Il s'en imprègne de manière tout à fait caractéristique chez lui, mais c'est bien plus tard, mais vraiment bien plus tard, je dirais même plusieurs années plus tard, qu'il sera capable, en fait, de faire ressurgir des profondeurs, on a presque envie de dire inconscientes, les motifs de ce voyage. Hein, quand on pense à Océanie, les deux panneaux d'Océanie qu'il va réaliser dans les années 40, ou alors Polynésie, la mer et le ciel, que vous pouvez voir dans l'exposition à Sydney, hein, qui sont absolument somptueux, qui sont des gouaches découpées, des grandes gouaches découpées bleues et blanches. On voit bien que c'est fait en fait plus de 16 ans après le voyage. Hein, donc c'est comme si finalement le motif du lagon, tous ces motifs polynésiens ressurgissaient des années après. Et ça, cette maturation là par l'assez de Matisse.
Et si on parle de sa carrière, encore une fois, il y a eu vraiment les deux guerres également au sein donc de cette carrière. À quel point on sait l'impact que ces deux conflits mondiaux ont eu, à la fois sur son œuvre, mais sur l'homme en lui-même, et notamment la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu quand même énormément d'œuvres pillées de Matisse sur cette Deuxième Guerre mondiale.
Pillé, je sais pas trop en fait ce à quoi vous faites allusion, mais en revanche là où je vous suis totalement, c'est qu'effectivement les deux guerres ont eu un impact considérable sur Matisse. Durant la première guerre, Matisse n'est pas, malgré son souhait, ne sera pas mobilisé. Il n'est pas mobilisable pour des raisons de santé, et donc il va en quelque sorte rester à l'arrière, comme on disait, recevoir la visite de ceux qui, comme lui, ne sont pas mobilisés, et peindre. Et entamer une période assez austère, précisément une peinture très intellectuelle, très expérimentale, très risquée, parmi les plus belles de sa vie, de son œuvre, autour de 14-17. Hein, c'est vraiment une peinture absolument superbe, où la place du noir, hein, où le noir devient une couleur, véritablement, grâce à Matisse. Donc c'est une période compliquée, mais c'est aussi une période d'une très très grande richesse chez Matisse. À défaut de combattre, il sait que sa place est justement devant son chevalet. La Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi... Alors, Matisse est désormais vraiment âgé. Il n'est pas question, bien sûr, de pouvoir partir au front. C'est tout à fait exclu. Mais en revanche, il repousse les offres de quitter la France, ce qui est très intéressant, alors qu'on la lui fait. C'est quand même un artiste absolument considérable, hein, depuis longtemps déjà. Il a la possibilité de partir en Amérique du Nord, au Brésil éventuellement aussi. Tout ça va être repoussé par Matisse, qui estime que sa place reste en France. Donc il va peindre à Nice, puis ensuite, quand Nice est menacée de bombardement par l'ennemi, il va s'installer à Vence, voilà, où il va peindre parmi les plus belles toiles qu'il va réaliser durant les années 48. Pardonnez-moi. Donc voilà, à chaque fois la guerre en fait revient. Vivifie en quelque sorte, au lieu de tarir sa pratique, hein, son œuvre. Ça va être des moments extraordinairement difficiles, mais en même temps parmi les plus extraordinaires de sa vie, à mon sens les plus extraordinaires. Mais après, il est bien évident qu'on peut débattre, et qu'il y a toujours une part de subjectivité aussi dans ces avis-là. Mais 14-17 et puis ensuite 43-47 sont des années de jeunesse en fait, deux fois chez Matisse. Mmh.
Et si on parle également vous avez parlé de Picasso, qui l'a à la fois inspiré et peut-être motivé aussi pour améliorer son art. Il a rencontré des gens à cette époque-là. On pense à André Gide, à Apollinaire, qui ont écrit même sur lui. À quel point ces rencontres ont influencé Henri Matisse?
Alors c'est très différent de parler d'écrivain et de parler d'un artiste. En fait, le seul avec qui Matisse va profondément dialoguer toute sa vie, et Yves Alainbois, l'historien de l'art, Yves Alainbois l'a bien montré. C'est évidemment Picasso, c'est-à-dire que on peut pas comparer bien sûr la rencontre d'un Gide ou d'un Apollinaire, dont par ailleurs Matisse se méfiait un petit peu, donc en fait les liens Apollinaire sont assez ténus. Puis Apollinaire va mourir en 18, hein, donc c'est une relation qui s'achève très vite. Mais Picasso, c'est toute une vie, c'est vraiment toute une vie. Bien sûr, c'est Matisse qui va partir le premier en 54, mais Picasso meurt en 73, et à la mort de Matisse, Picasso va dire: je ne sais plus avec qui parler. Voilà. Donc c'est très très important. C'est évidemment une relation construite sur le mode de la rivalité, mais deux artistes de cette trempe, si je peux dire, ont besoin justement d'une rivalité à ce niveau-là. Donc c'est très différent effectivement de parler de la fréquentation constante de Matisse avec les écrivains et celle des peintres. Celle des peintres, c'est vraiment Picasso qui indiscutablement, malgré les liens très amicaux qui l'uniront toute sa vie à Bonnard, malgré les liens très importants qu'il noue dès les années de l'atelier aux Beaux-Arts de Paris, sous l'atelier Gustave Moreau, hein, le peintre symboliste Gustave Moreau. Là, il va nouer des relations amicales très importantes avec Marquet, Manguin, Camoin, autant de peintres, hein, qui sont ensuite dans la mouvance fauve. Tout ça sont des liens importants, mais il est évident que Matisse ne se trompe pas. C'est avec Picasso qu'il faut parler toute sa vie.
Quand vous parlez, échanger physiquement, ou il parlait également par œuvre interposée?
Ouais, je pense que je l'emploie en fait pratiquement entièrement de manière imagée. Il parle en peintre, de peintre à peintre. Alors après, bien sûr, il se voyait de temps en temps, mais non, ça n'est pas tellement dans les mots finalement que ces deux hommes ont à dire. C'est évidemment de peinture à peinture.
Les jeunes appelleraient ça une battle, c'est ça?
On peut dire que c'est une battle, j'aime assez, je garde, oui, oui.
Si on parle de ce que Henri Matisse a laissé après sa mort, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un certain courant? Est-ce qu'on peut parler d'artistes qui ont été influencés par Matisse ouvertement, qui le disent ouvertement?
Oui, mais alors à toute génération, je dirais, puisque après-guerre, aux États-Unis, tout un courant formaliste, hein, et autour de Greenberg notamment, être extrêmement extrêmement influencé par Matisse. Un peintre comme Barnett Newman va évidemment regarder de manière très précise Matisse, et puis après des gens qu'on associe moins éventuellement à l'art de Matisse, mais des gens comme Roy Lichtenstein, l'artiste du pop, est quelqu'un qui connaît parfaitement l'œuvre de Matisse. Encore récemment, Jim Dine, que j'interrogeais, est un très très fin connaisseur de Matisse. Je crois que les artistes ne s'y trompent pas en fait, hein. Ils ont besoin, sans forcément dupliquer du tout l'art de Matisse, on vient se ressourcer à quelque chose qui est absolument majeur. Moi, je tiens beaucoup à la dimension du design graphique chez Matisse. Je pense que Matisse, quand il conçoit une couverture d'un ouvrage en papier découpé, coloré bien sûr, gouaché, hein, je pense que c'est un designer absolument phénoménal, qui n'a pas pris une ride. Je suis pas sûre, par exemple, si on veut continuer la comparaison très très connue avec Picasso, je suis pas complètement sûre que Picasso puisse rivaliser avec cette simplicité extrême et d'une efficacité aujourd'hui, d'une modernité totale. Il y a toujours un côté, il y a une histoire chez Picasso, chez Matisse c'est très secondaire le sujet. Le sujet est important, mais d'une certaine manière, c'est là vraiment la compréhension de ce que c'est que le décoratif, mais au sens noble, hein, au sens absolument capital du terme. Ça, c'est quelque chose qui rend, à mon avis, Matisse plus moderne, si je devais faire une petite hiérarchie qui va peut-être déplaire à certains, mais je crois Matisse, extraordinairement moderne du fait de la clarté de son vocabulaire encore aujourd'hui.
Est-ce que quand quelqu'un comme vous, qui avait passé presque une grosse partie de votre vie avec Matisse, hein, dans l'univers de Matisse, est-ce qu'on apprend encore toujours des choses quand vous regardez certaines œuvres, certaines toiles, certaines sculptures? Vous découvrez encore des choses par rapport à l'artiste?
Oh, absolument. D'abord parce qu'il y a des historiens de l'art qui ont passé beaucoup plus de temps que moi-même, je le dis vraiment en toute modestie, avec Matisse, et que par ailleurs, c'est peut-être un peu le fil rouge de notre entretien. Quand un artiste est très très important, quand un artiste est très très complexe comme Matisse, et simple à la fois, comme j'essaye de l'expliquer dans cette polarité, oui, on n'en a jamais fini avec lui, absolument, absolument. Donc je passerai encore certainement beaucoup plus de temps, et je fais cours actuellement à Paris à l'école du Louvre sur Matisse, et il est évident que ça c'est un exercice qui apprend beaucoup. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est la réponse, voilà.
D'accord. Allez, une toute dernière question. Comment on se sent quand on a votre travail, vos responsabilités par rapport aux œuvres au Centre Pompidou, quand toutes ces œuvres doivent voyager? On a parlé un petit peu au début d'entretien par rapport à la logistique, mais on doit quand même pousser un sacré ouf de soulagement quand on sait que l'avion s'est posé et que les œuvres commencent à s'installer sur le mur de la galerie à Sydney, non?
Oui, c'est vrai que c'est un moment de soulagement et aussi de récompense en quelque sorte d'un travail qui a mobilisé des équipes extrêmement importantes. Oui, c'est certain. Il y a toujours un facteur risque, on le sait. Et c'est que vous avez tout à fait raison de dire que ce sont des collections inestimables. En fait, ça se valorise même plus tellement c'est inestimable. Il n'y a pas vraiment de valeur marchande, en fait, hein, à de tels trésors. Mais c'est absolument unique et, je dois dire, à mon avis, indispensable pour les institutions muséales partout dans le monde, que malgré tout, les œuvres puissent encore, dans le respect évidemment de certaines conditions, je dirais, écologiques, hein, et de développement durable, mais dans le respect de certaines conditions, je crois qu'il est encore capital qu'on puisse faire voyager les œuvres, parce que moi, je m'attriste que parfois, on estime avoir vu une exposition parce qu'on a vu le commissaire faire une visite en vidéo. Je trouve qu'on confond les choses quand même. Voilà. Même si c'est très commode et très pratique, on s'en félicite qu'on puisse aussi diffuser les œuvres comme ça. Je pense que les visiteurs de l'exposition Life and Spirit à l'Art Gallery of New South Wales, je pense qu'ils vont comprendre à quel point le regard direct sur l'œuvre de Matisse est simplement irremplaçable.
Absolument. Et puis on va dire en pied de cette interview que c'est quand même un sacré pied de nez à la pandémie aussi.
Absolument. Je sais, ça nous rend tous extrêmement heureux, en fait.
Absolument. Voilà, l'exposition s'appelle Matisse, Life and Spirit, Masterpieces from the Center Pompidou, avec mon meilleur accent anglais et français. Merci, en tout cas, c'était un plaisir de vous parler.
Mais merci à vous, je suis ravie d'avoir fait cette émission avec vous. Merci.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.